Je vais donc vous parler de l'écologie, puisque la promenade en Europe chrétienne est maintenant terminée. La question semble prendre actuellement une importance que l'on pourrait qualifier de démesurée. Les cris d'alarme se multiplient à propos du dérèglement climatique, des OGM, etc. Sous prétexte d'écologie, d'aucuns en arrivent à condamner toute initiative industrielle qu'ils ont au fait de qualifier de libéralisme, mot très imprécis qui recouvre des choses contradictoires. Du coup, ceux qui reconnaissent dans l'industrie et dans l'économie de marché des bienfaits incontestables déclarent, premièrement, que les écolos actuels sont tous des socialistes, mot tout aussi vague que la qualification de libéral. Deuxièmement, que toute préoccupation concernant la protection de la nature est socialiste, donc abominable aux yeux du Seigneur, parce que favorisant une classe politique, etc., etc., etc. Après 37 ans passés dans le domaine du traitement des déchets, ordures ménagères, déchets industriels, eaux usées, etc., je pense que l'affaire est beaucoup plus nuancée. J'ai rédigé mon premier article sur l'écologie en 1970. Je me permets donc de soumettre quelques réflexions qui se veulent réalistes, loin des discours idéologiques qui, à franchement parler, me fatiguent un peu. Le réchauffement climatique est loin d'être le premier, en date. On a fait remarquer que les 11e et 12e siècles avaient été très chauds, et dire que c'est le plus important revient à prendre pour référence des statistiques de plusieurs siècles. Il y a eu un réchauffement aussi à la fin de l'époque glaciaire, comme chacun sait. Quant aux gaz à effet de serre, il y a pour le moins une généralisation hâtive. D'abord, il faut rappeler que la teneur de l'air en gaz carbonique n'est que de 0,03%, ce qui est fort peu. D'autre part, on sait qu'un liquide chauffé dégage une partie des gaz dissous et que la mer est un réservoir gigantesque de tous les gaz contenus dans l'atmosphère. Dès lors, l'augmentation de la teneur de l'air en gaz carbonique est-elle la conséquence ou la cause de l'incontestable réchauffement climatique? Là aussi, on oublie de noter la vapeur d'eau, la formation de nuages, etc., qui peut avoir une importance considérable. D'une manière générale, il faut se méfier de l'affirmation selon laquelle des scientifiques affirmeraient que il ne s'agit souvent que de thèses d'étudiants manquant de rigueur sur le plan des réalités. J'ai entendu un scientifique proclamer que nous savions maintenant que pour refaire le linceul de Turin, c'était très simple, on prenait une statue, on prenait de la teinture d'iode, on mettait un drap de lit dessus et que ça marchait très bien. Je l'ai entendu de mes oreilles à la radio. C'est pourquoi je me méfie de plus en plus quand on dit des scientifiques. En ce qui concerne les OGM, il est certain que la mise en place d'espèces complètement nouvelles, puisque, selon ce que j'ai lu, pouvant aller jusqu'à inclure des gènes animaux dans des végétaux, peut mener à de graves désordres. Cultiver des plantes insecticides contre lesquelles les insectes ne sont pas protégés peut aller jusqu'à provoquer la disparition des oiseaux et de la pollinisation d'autres plantes. Il faut donc être prudent. Mais conclure au danger pour l'homme de l'ingestion d'OGM après des essais sur des souris qui ne pèsent que 100 grammes nourries exclusivement avec des OGM, alors que l'homme ne les prendra en salade qu'une fois par semaine, est pour le moins surréaliste. Il est certain que l'écologisme actuel a pour conséquence la multiplication des contrôles, des lois et de toute une faune de fonctionnaires dont l'utilité n'est pas toujours évidente. Mais les grands groupes industriels y se trouvent aussi des avantages juteux. Je n'en citerai que trois. Les tuyaux en plomb. Les tuyaux en plomb assuraient en quasi-totalité la distribution de l'eau potable il y a quelques décennies. Devant les dangers plus ou moins avérés du saturnisme, une loi a été édictée sur la concentration en plomb de l'eau de distribution. En réalité, le danger n'existe que dans les régions granitiques comme les Vosges, la Bretagne, le Limousin. Il est absent des zones calcaires car le dit calcaire protège les canalisations. Brusquement, les autorités ont divisé ces limites par 5 sous couvert du sacro-saint principe de précaution. Le résultat pour la santé publique est négligeable, mais la conséquence technique était que la quasi-totalité des réseaux devait être rénovée. Innovation socialiste. En tout cas, l'industrie des tuyaux en plastique s'est frottée les mains car son marché s'est accru de plusieurs dizaines ou centaines de millions d'euros. Deuxièmement, le PCB. Si j'ai bonne mémoire, il me semble que c'est bien le PCB. Il s'agit d'un gaz inerte que l'on utilisait dans les transformateurs et les appareils à lac pour les cheveux des élégantes. Brusquement, on s'aperçut que ce gaz était désastreux pour le trou d'ozone. Notons qu'on ne parle plus guère actuellement du trou d'ozone. Il n'est pas sans intérêt de remarquer que ce danger fut exactement décelé au moment où le brevet de fabrication du produit tombait dans le domaine public et que, par conséquent, la très importante firme américaine détentrice du brevet ne toucherait plus ses royalties. Le PCB fut donc interdit et remplacé par un autre produit, breveté par la firme précédente, cela va de soi. Troisièmement, les sacs en plastique. Sur la fin de mes activités, j'étais membre d'un groupe de travail international sur la normalisation d'essais concernant la biodégradabilité de nouvelles matières plastiques. Problème très difficile, car cette biodégradabilité n'est pas toujours évidente, parce que s'il y a des fils invisibles mais très longs qui restent, ils ne sont pas biodégradables, et qu'elle dépend de bien des paramètres dont la durée et les conditions extérieures ne sont pas les moindres. Mais les trois innocents techniciens français du groupe ne tardèrent pas à se rendre compte que les discussions étaient très fortement influencées par les représentants des deux groupes industriels, dont un monstre américain de l'agroalimentaire, bien connu, lesquels ont reconnu, au cours d'un dîner ou d'une pause café, que leur but était de pouvoir mettre la main sur les marchés des sacs de supermarché et surtout sur celui des sacs poubelles. Alors, ce n'est pas tellement socialisme, c'est du capitalisme à l'état pur. Il y aurait beaucoup à raconter sur ces manœuvres, sur celles de groupes de pression, qu'en franglais on appelle lobby, qui écument les couloirs de Bruxelles pour faire voter des lois qui permettent d'accroître leurs profits. De fait, socialistes et libéraux s'entendent parfaitement bien pour élaborer des lois qui favorisent l'un et l'autre par n'importe quel moyen. Finalement, socialisme et libéralisme ne sont que les faces opposées de la même pièce de fausse monnaie, celle qui ne considère tout que sous l'angle de l'argent, pour l'État ou pour une oligarchie, n'importe. Ceux qui ont rejeté toute dimension surnaturelle, Dieu en tête, nous sommes à l'opposé de la doctrine sociale de l'Église. Pourquoi ne pas tenter une autre analyse et ne pas revenir aux sources ? La Genèse est explicite sur le rôle de l'homme. Le chapitre 1, il est difficile de remonter plus loin vers la source, dit clairement que l'homme règne sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, sur le bétail et sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur le sol. Et le chapitre 2, le Seigneur plaça l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Le côté pénible du travail à la sueur de son front n'est venu que comme conséquence de la faute originelle. Dès lors, il apparaît qu'une véritable écologie suppose un usage raisonné de la terre et non une exploitation forcenée, suppose une royauté d'amour et non une tyrannie égoïste. Le maître mot d'une telle attitude est le respect. Respect de la création et de tous ses composants, de tous ses usages. Ce n'est pas respecter la création que de dépeupler les mers avec des bateaux qui pomplotent à travers des filtres ou en laissant traîner des filets de plusieurs kilomètres de long, dans le but non pas de se nourrir, mais de fabriquer des produits industriels tels que colle, farine ou matière plastique. Ce n'est pas respecter la nature que d'installer des irrigations au-delà des possibilités des nappes, voire d'assécher des mers comme ce fut le cas de la mer d'Aral. Ce n'est pas respecter la nature que ces élevages de milliers de cochons ou de dizaines de milliers de volailles, ni de construire n'importe quoi, n'importe où. De Roquebrune au pied des Alpes, on peut voir ce qu'est devenu Monaco, une espèce de Sarcelles sur mer d'où on ne peut voir la dite mer qu'après s'être faufilé entre des immeubles de 30 étages. Il ne faut pas encore payer pour accéder au point de vue, mais cela viendra. Une des premières manifestations du respect dû à la nature serait la lutte contre le gaspillage, lequel est universel. On évaluait la quantité d'imprimés, journaux, publicités diverses, à 150 kilos par an et par personne. Qui est capable de lire chaque jour les 60 pages d'un quotidien ? Mais il y a plus grave. Combien de fois avons-nous constaté qu'il était impossible de faire réparer un réfrigérateur ou une machine à laver parce qu'il n'y a plus de pièces de rechange ? On répond qu'il faut bien faire marcher l'industrie et que des objets qui dureraient trop longtemps provoqueraient du chômage. Autre gaspillage inadmissible. Les lois actuelles interdisent aux cantines et restaurants de resservir les restes des repas précédents, même dans le cas de mariage. Alors, on jette. D'autres lois ont rendu l'équipement des cuisines des communautés tellement contraignante que plusieurs d'entre elles ont dû cesser leur activité. Je connais le cas de petites sœurs des pauvres qui ont été sommées de supprimer la distribution de soupe qu'elles faisaient aux clochards sous prétexte qu'elles n'étaient pas aux normes. Selon une source officielle, on rejetterait chaque jour dans les ordures de Paris de quoi nourrir plusieurs dizaines de milliers de personnes, et cela au nom du sacro-saint principe de précaution. À la lutte contre le gaspillage, il conviendrait d'ajouter l'éducation à la beauté et l'émerveillement devant la nature. Salvatore Dalí s'extasiait devant la carapace des écrevisses, exemple extraordinaire de résistance dans la légèreté. Et de tels exemples fourmillent dans la nature. Je pense à certaines fleurs, les orchidées, aux oiseaux, aux poissons. La visite des aquariums est un enchantement. Le Christ ne nous invite-t-il pas à contempler les lys des champs comme plus somptueux que Salomon dans toute sa gloire? À ces fondements d'une écologie que l'on pourrait définir comme intelligente, il ne faut pas oublier d'ajouter la prudence, c'est-à-dire la nécessaire adaptation des lois et règlements à la réalité. Une ville ayant déclaré la guerre à la voiture, c'est à la mode, a proclamé la nécessité de se déplacer à bicyclette. Quelqu'un a toutefois fait remarquer que 55% des électeurs étaient sexagénaires ou plus. Lutte contre le gaspillage, respect, éducation à la beauté sont, ce me semble, des directions essentielles à une véritable écologie qui pourrait permettre de sortir du désastre dans lequel nous enfonce le culte des seules considérations économiques, dans lequel on veut nous enfermer. Le but d'une entreprise n'est pas de gagner de l'argent. C'est pour elle une nécessité, comme pour chacun d'entre nous le boire et le manger. Mais un homme véritable est autre chose qu'un tube digestif. Le but d'une entreprise est de rendre un service. Et dans cet ordre, tout n'est pas légitime. Ainsi, pourrons-nous sortir de ce qu'on appelle, de ce que l'on nous présente comme inévitable, une alternance entre socialisme et libéralisme, ridicule, une alternative, pardon, entre socialisme et libéralisme, ridicule et mensongère, puisque chassant Dieu de la cité, tout comme au temps de la tour de Babel. Eh bien, la prochaine fois, nous essaierons de voir, commencer à examiner cette doctrine sociale de l'Église. Et puisqu'il paraît qu'il y a aussi des gens qui m'écoutent en Russie, je leur souhaite bonjour et bonne volonté et un cordial salut. Do svidaniya.